Entre Monsieur Ledin, tenu plus que correct, de jeune homme très dans le train, et, appuyé sur son bras qui la guide, une jeune femme de la plus grande beauté et de la plus grande distinction. La dame paraît fort émue.
Là, plus qu'un pas. Un siège, valet de chambre, faites vite!
Bernard avance un fauteuil.
Madame est souffrante?
La dame s'affaisse dans le fauteuil.
Oh, ce n'est rien.
Un accident de voiture.
Mon Dieu, madame a été renversée?
Versée seulement.
Où donc?
Au bois, par la voiture qui la promenait.
Madame n'est pas blessée au moins?
Non.
Dois-je courir chez le docteur?
Inutile.
Cependant...
Rien, je vous dis. Je vous jure que ce n'est rien. Une grosse émotion, voilà tout. À peine une petite courbature. Laissez-nous, Bernard.
Laissez-nous.
Bernard salue et sort.
Tout de bon. Comment vous sentez-vous, madame?
Tout à fait bien.
Prenez garde. Les gros mensonges vont mal aux jeunes bouches.
La dame, à demi-souriante, lui tend une main dont il s'empare. Puis, reconnaissante.
Que de mal je vous ai donné.
À moi? C'est pour rire, je pense.
Rire? Oh, je n'ai guère le cœur à rire.
Pourquoi?
Pour rien. Je me comprends. Recevez tous mes remerciements et reprenez votre liberté.
Vous me chassez?
Pouvez-vous le croire? Je ne vous chasse pas, je vous renvoie, car à la fin, je serai indiscrète et on n'abuse pas à ce point de la courtoisie d'un galant homme.
En vérité?
Monsieur Ledin enlève son pardessus.
Voilà qui tranche la question.
Mais...
Vous dites des enfantillages. Vous êtes encore toute bouleversée. Je ne vous laisserai pas ainsi, seule, sans une main pour tenir la vôtre.
Il s'assied à côté d'elle.
Sans un bras pour vous y endormir. Vous avez besoin de repos.
La dame l'écarte doucement.
Vous êtes un enfant, tenez-vous.
J'étais si bien.
Vous allez me fâcher, prenez garde.
Madame.
Soyez sage, je le veux. Et ayez la complaisance de sonner pour avoir du thé.
Monsieur Ledin s'empresse d'obéir.
J'ai les nerfs dans un état.
Ah, Bernard qui apparaît.
Du thé.
À part.
Ah ça, mais. Voilà une aventure. Où je ne suis qu'un sot, et le diable s'en mêlera si je n'en sors paré des lauriers de la victoire.
À Bernard qui rentre, portant un plateau et des tasses.
Merci.
Il verse le thé, puis, une tasse pleine à la main, il s'approche de la dame.
Buvez.
Jeu de scène muet. La dame a pris la tasse et elle boit en le regardant. Monsieur Ledin est maintenant si près d'elle que, presque, ses lèvres à lui effleurent l'autre bord de la tasse. Brusquement, il tombe à ses genoux.
Je vous aime.
Non.
Je vous adore.
Encore? Pensez-vous que je vous crois?
Ah, le contraire me surprendrait. Les femmes passent leur vie à la gâcher en ajoutant foi comme mensonge.
Vous me désirez?
Certes, oui. Qui serais-je et qui seriez-vous si j'en étais autrement? Madame, l'amour n'est fait que du désir d'avoir ou de la gratitude d'avoir eu.
Le vôtre, du moins, n'est pas né de la reconnaissance.
En êtes-vous bien sûr?
Comment cela?
Ah! C'est que vous autres parisiennes, vous avez cet art bien à vous de vous livrer sans qu'il y semble, de vous éparpiller à l'infini, de demeurer entière, pourtant, dans tout ce qui vous a effleuré, en sorte que vous avoir approché, c'est vous avoir possédé, presque, que c'est, oh, à rien près, avoir baisé votre baiser, qu'avoir souri à votre sourire, et que vous ne tenez guère plus dans l'étendue de votre abandon que dans la caresse troublante de vos fourrures, de vos gants et de vos voilettes. Je vous ai eu et je vous en aime, je vous le jure.
Il l'enlace.
Oh, cœur jeune!
Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous pleurez?
Déjà, il est à genoux, les mains aux hanches de la dame.
Voyons, qu'avez-vous? Parlez-moi, je vous ai fait de la peine.
Vous savez bien que non.
Mais alors quoi? Vous me désespérez?
Ne m'interrogez pas, je ne puis vous répondre. Je n'ai rien, je vous jure que je n'ai rien. J'ai les nerfs malades, voilà tout.
Ah, les bébés qui pleurent comme ils rient, sans savoir.
Sans savoir? Ah, je ne sais pas pourquoi je pleure, je ne sais pas ce qu'est la vie, ce qu'est la mienne, surtout.
Voyons, voyons.
Si vous pouviez imaginer, deviner, supposer, concevoir le vide lugubre de mon cœur. Vous resteriez épouvantée.
Est-il possible?
Toute seule dans la vie, mon Dieu, sans un espoir.
Mais si.
Sans une affection.
Et la mienne?
La dame se laisse tomber sur les genoux de Monsieur Ledin.
Je suis mariée.
Ça ne fait rien, ne nous occupez pas de ça.
Redoublement de sanglots chez la dame. Peu à peu, elle s'est abandonnée aux bras qui l'étreignent du jeune homme, et, penchée sur son épaule, elle secoue énergiquement la tête, voulant dire que, si, que cela fait quelque chose tout de même. Ces paroles n'arrivent plus que par lambeaux, mêlées à des sanglots bruyants.
La vie est bête et cruelle.
Abominablement, c'est vrai. Mais enfin, ce n'est pas une raison pour vous mettre dans cet état-là. Je vais finir par fondre en larmes, moi aussi.
Vous êtes bon, vous.
Ah, mais je ne suis pas méchant. Allons, je vous en prie, parlez-moi. Mal marié, hein?
mimique énergique de la dame.
Un mari qui ne vous comprend pas, pauvre petit cœur méconnu. Un ours pour qui vous n'êtes rien, pour qui vous n'avez jamais rien été. Enfin, il faut se faire une raison. Chacun ses petites misères, puisque je vous jure que je vous aime.
Il cherche à lui baiser les yeux, mais la dame est coiffée d'un immense Gainsborough, et au bord fâchement avancé du chapeau, M. Ledin se heurte le nez au point que cela en devient vraiment exaspérant. À la fin, agacé et courtois à la fois...
Ça ne vous serait pas égal de retirer votre chapeau ?
Déjà exigeant !
Mon Dieu, non ! Mais si vous saviez à quel point votre chapeau est insupportable, je m'y use le nez comme sur une râpe à fromage.
Alors, il faut vous obéir ?
Il le faut.
Obéir en tout ?
Oui.
Tyran !
Elle avance ses lèvres, long baiser.
Restez là, je reviens !
Elle sort. Petite pantomime. Monsieur Ledin, resté seul, enlève ses gants, doigt par doigt, sur l'air joué deux fois de suite à l'orchestre, « La victoire est à nous ». Puis, les pouces chevauchant les entournures du gilet, il promène le long de la rampe son sourire d'heureux coquin auquel nul cœur ne résiste, tandis que l'orchestre joue le motif « Toutes les femmes sont à nous » de la chanson de Fortunio. Cependant, la bien-aimée commence à se faire un peu attendre. Monsieur Ledin consulte sa montre. 6 heures. Diable ! Monsieur Ledin s'impatiente. Soudain, le doigt au front.
Une idée !
Sournoisement, sur la pointe du pied, il va à la porte de la chambre où la dame s'est enfermée, et, l'œil au trou de la serrure, il se met en devoir de prendre l'apéritif. Ah, l'admirable spectacle ! L'orchestre en donne une idée, du rappel d'un motif célèbre de Miss Elliott, puis d'une scie de café-concert bien connue, Adèle, t'es belle. Monsieur Ledin exprime son enthousiasme par une mimique vive et animée, qu'interrompt comme par enchantement le discret d'un monsieur entré depuis une minute et qui le regarde en souriant.
Monsieur ?
D'où sort-il celui-là ?
Ne vous gênez pas pour moi, je suis de la maison.
Il dépose son parapluie.
Est-ce qu'il est entré par une trappe ? Je vous demande pardon, monsieur. Oserais-je vous demander...
Qui je suis ? La question est au moins bizarre. À moi, faite par un inconnu que je trouve dans mon appartement.
Dans votre appartement ?
Eh oui.
Vous êtes ici chez vous ?
Chez moi.
Mais alors vous êtes ?
Le mari.
Le diable emporte cet imbécile.
J'ajouterais que je suis fort jaloux, d'une jalousie chatouilleuse qui prend mal certaines plaisanteries.
Croyez bien...
Ne vous émotionnez pas, je vous prie. Je serais vraiment au désespoir que vous vous émotionnassiez.
Mais...
C'est un homme du monde qui vous parle, monsieur.
Je n'en doute pas.
Un homme du monde, vous dis-je.
Tout l'honneur...
Tout l'honneur est pour moi, croyez-le.
Je suis confus.
Du tout, du tout. Vous vous disposiez à prendre une tasse de thé ? Voulez-vous me faire le plaisir de le prendre en ma compagnie ?
Comment donc ? En effet, il est très bien ce monsieur.
Le monsieur lui avance une chaise.
Asseyez-vous donc, je vous prie.
Monsieur Ledin salue et s'assoit.
Et me contez à quelles circonstances aussi fortunées qu'imprévues je dois l'avantage de votre visite.
Ma foi, monsieur, je serai franc. J'étais au bois de Boulogne, à voir passer le monde, quand tout à coup...
Le monsieur lui verse du thé.
Merci, monsieur. Des cris de femme attirèrent mon attention. J'accourus.
Quel drôle de quartier.
Qu'est-ce que vous dites ?
Je dis quel drôle de quartier.
Vous dites quel drôle de quartier ?
Oui, je dis quel drôle de quartier.
À propos de quoi dites-vous ? Quel drôle de quartier ?
À propos de quoi je dis quel drôle de quartier ? Je dis quel drôle de quartier parce que c'est un drôle de quartier.
Ah ?
Vous n'êtes pas d'ici, peut-être ?
Non, monsieur, je suis de Cancale.
Il n'y a pas de sotte patrie.
Monsieur Ledin sourit et salue.
Eh bien, monsieur, vous ne sauriez croire combien Paris est fertile en inattendu. Ainsi, voilà un appartement situé au cœur même de la ville, admirablement exposé, 4 fenêtres au midi. L'eau et le gaz à tous les étages. Devinez combien je paie. 1300. Hein ? C'est donné.
J'avoue.
Et notez que les denrées sont un bon marché exceptionnel. Prenez par exemple les pruneaux. 35 sous la livre. Et le vermicelle. 70 centimes le kilo. En revanche, le sucre est hors de prix.
Ah ?
Hors de prix. Tenez, vous voyez ce morceau ? Savez-vous à combien il me revient ? À 1 louis.
Non.
Ma parole, drôle de quartier. Vous m'excuserez donc si je vous sucre avec quelque parcimonie ?
Il lui met 5 morceaux de sucre. Monsieur Ledin, ahuri, le regarde faire.
Mais continuez donc de grâce. Votre récit est du plus puissant intérêt.
J'accourus aussitôt, et ce que je vis, par terre, oui monsieur, par terre, au bas d'une voiture versée, gisait, éperdu et braillant, un inexprimable fouillis de lingerie fanfreluchée de mousseline diaphane. et de ces blancheurs délicates, teintées à peine par-ci par-là, jaillissaient en se débattant comme de petites possédées, de fines jambes noires, les plus fines et les plus adorables du monde. Ah, monsieur, le bas noir et la cigarette! Voilà bien les deux seules choses vraiment neuves qu'a imaginé l'homme depuis l'Antiquité.
Du rhum?
Ah, s'il vous plaît. Je m'empressais de relever cette dame et...
C'est inexplicable.
Plaît-il?
C'est inexplicable.
Vous dites c'est inexplicable?
Oui, oui, je dis c'est inexplicable.
Pardon, pourquoi dites-vous que c'est inexplicable?
Pourquoi je dis que c'est inexplicable? Je dis que c'est inexplicable parce que c'est inexplicable.
Quoi?
Le prix du rhum dans le quartier! Monsieur, c'est à n'y pas croire. Voilà du rhum, dont on peut dire qu'il n'est ni bon ni mauvais. Rhum d'épicier, ça se laisse boire. C'est fabriqué avec du cuir de savate, coloré avec des pastilles rosières. Eh bien, savez-vous combien je le paye?
Non.
25 louis la bouteille! Pas un sou de plus, pas un sou de moins. Hein, monsieur, on n'a pas idée de ça, Cancale. Troll de quartier. Vous m'excuserez donc si je vous sers avec quelques modérations.
Il lui verse la moitié de la bouteille dans la tasse. La tasse déborde. Stupeur de Monsieur Ledin.
Vous disiez?
La figure de Monsieur Ledin commence à se compliquer d'une inquiétude légitime.
Bref, ayant relevé cette dame et constaté avec satisfaction qu'elle en avait été quitte pour la peur, je lui offris mon bras, qu'elle daigna accepter. Et je l'accompagnais jusqu'en cet appartement.
Qui est le mien?
Oui, il paraît. Et ma surprise...
est excessive, en vérité. Car enfin, ces petites aventures sont fréquentes dans le courant de la vie fiévreuse qui nous emporte. Et vous êtes la septième personne à laquelle pareille chose arrive depuis le commencement de la semaine.
Mais nous ne sommes qu'au mercredi.
Ça ne fait rien. Nous avons un cocher fantastique. Croiriez-vous qu'il verse ma femme jusqu'à 2 ou 3 fois par jour? Drôle de cocher?
Oui. Et drôle de ménage?
Parce que...
Parce que je comprends maintenant pourquoi le sucre et le rhum sont si chers dans ce quartier-ci. Je suis dans un coupe-gorge parbleu. C'est le chantage au flagrant délit.
Jeune homme, la douleur vous égare. Chantage, coupe-gorge, quel mot est-ce là? Est-ce que j'ai l'air d'un assassin? Je suis, je vous le répète, un homme du meilleur monde. La preuve en est que je ne m'abaisserai pas jusqu'à relever vos insolences. Ah, que voilà donc bien l'injustice des hommes et la jeunesse d'aujourd'hui. Vous auriez pu tomber entre les mains d'un mari vulgaire ou brutal qui, vous trouvant près de sa femme, chez lui, eût pu, comme c'était son droit, aller prévenir le commissaire ou simplement vous rouer de coups puis vous jeter à la rue nu comme un petit Saint-Jean. Au lieu de ça, vous avez affaire à un gentleman délicat qui se remet presque à votre discrétion et qui n'a pas trop sucré votre tasse de thé, qui ne vous a pas versé toute la bouteille de rhum. Et vous vous plaignez? Allons, vous êtes un ingrat.
Ah, il suffit! Voilà 10 louis, vous êtes le dernier des drôles.
Une parole de trop!
Vous dites?
Le monsieur se lève.
Je vous dis que depuis un quart d'heure, je pardonne à votre jeunesse l'incorrection de votre attitude dans une maison où vous vous présentez pour la première fois. Mais enfin, le moment est venu où ma dignité est en jeu.
Mouvement de Monsieur Ledin.
Plus un mot. Vous trouverez bon que je ne vous retienne pas à dîner.
Longtemps, les deux hommes se regardent dans les yeux. Puis, les épaules secouées d'un haussement dédaigneux, le monsieur se dirige vers un timbre et sonne. Entre Bernard.
Bernard, remettez à monsieur son chapeau et son pardessus.
Bernard obéit.
Bien, montrez-lui par où on sort.
Bernard du doigt indique la sortie à Monsieur Ledin.
C'est cela. S'il revient pour me voir, vous lui direz que je suis souffrant. Je n'y serai jamais pour lui.
Monsieur Ledin est maintenant sur le seuil de la porte.
J'ai vu des gens avoir du culot, mais pas dans ces proportions-là.
Il sort, suivi de Bernard.
Le monsieur pousse un soupir de soulagement.
Ah, Bernard!
À Bernard qui reparaît.
Mes pantoufles.
Bernard les lui apporte. La dame montre le bout de son nez par l'écartement des rideaux de la chambre.
Parti?
Le monsieur se déchausse.
Parti.
Combien?
10 louis.
Ce n'est pas le Pérou.
T'es bonne, toi. Ce n'est pas tant à dédaigner.
Il a tiré un cigare qu'il se dépêche d'allumer.
Ah, voilà mes pantoufles.
Assis d'un côté de la table, il se déchausse et met voluptueusement ses pantoufles. La dame s'assied en face de lui, de l'autre côté de la table, et se dispose à continuer un travail de tapisserie.
Quel froid, hein?
6 degrés au-dessous. Un bon temps pour le coin du feu.
Nous allons en savoir quelque chose.
Il allume son cigare.
La conscience du devoir accompli et un bon cigare par là-dessus, voilà tout ce que le juste demande.